Bonjour, nous sommes le vendredi 22 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
IBA termine l'année sur une petite perte, mais avec un carnet de commandes assez bien rempli. La structure du management change pour mieux développer les activités autres que la protonthérapie historique. Le nombre de diabétiques progresse assez sensiblement dans notre pays et cela commence à peser sur le budget de la sécurité sociale. C'est toujours la fête sur les marchés avec un nouveau triplé de records pour les principaux indices à Wall Street. Je suis Laurent Fabry et je vous souhaite la bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Quelqu'un m'a dit il y a quelques années, change tes frustrations en fascination. Et je pense que ça me permet d'avoir tout à fait une autre vue sur le monde.
Voilà comment Olivier Legrain, le CEO d'IBA, engage la conversation avec moi et c'est assez inspirant finalement. Le leader mondial de la technologie d'accélération de particules basé à Louvain-la-Neuve présentait hier ses résultats et le bulletin est légèrement supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires a atteint 429 millions d'euros dont 229 issus de l'activité protonthérapie. Cependant, l'exercice se conclut dans le rouge à hauteur de 9 millions d'euros. Alors à y regarder de plus près, ces résultats révèlent le potentiel de différentes divisions, assure le CEO. Dosimétrie, médecine nucléaire et autres accélérateurs enregistrent de très gros progrès. Les investissements massifs en protonthérapie restent cependant à l'ordre du jour. Le carnet de commandes est bien rempli.
On n'est pas du tout en bout de course en protonthérapie, on est plutôt au début de course. Non seulement on a un énorme carnet de commandes à livrer, notamment qui avait été alimenté par une énorme commande en Espagne. On a commencé à produire les machines, mais on va en voir vraiment les effets à partir de 2025. Et c'est pour ça que nous guidons le marché financier vers un retour de la profitabilité de la protonthérapie à partir de 2025, qui permettra au groupe en fait d'atteindre notre guidance globale à ce moment-là de 10% de profit opérationnel à moyen terme, c'est-à-dire à partir de 2026.
La stratégie d'IBA semble donc bien maîtrisée, même si parfois il y a des imprévus.
Il y a une partie qui est tout à fait sous notre contrôle, qui est la partie fabrication en fait de l'équipement. Mais au moment où on l'installe chez le client, il faut aussi que le client soit prêt avec son bâtiment et qu'on puisse envoyer cette machine à destination pour pouvoir l'installer. Et donc, c'est vrai qu'en 2023 en particulier, on a eu deux clients qui ont été en retard avec leur bâtiment, ce qui nous a empêché de livrer la machine et donc qui arrête la conversion de ce carnet de commandes en revenus. Donc on l'accepte, c'est quelque chose avec laquelle on compose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une stratégie à la fois basée sur une croissance du revenu de service qui lui est beaucoup plus prédictible et aussi une stratégie basée sur une croissance forte de ce qu'on appelle les autres accélérateurs chez IBA qui par ailleurs montrent une rentabilité très importante.
Et pour se charger de cette mission, Henri Drobret, nommé Chief Strategist Officer en novembre, a été promu Deputy CEO en charge des autres activités, hors protonthérapie donc. Il est connu pour avoir été directeur des activités de Bpost aux États-Unis. Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont réunis pour deux jours à Bruxelles. Hier, ils ont acté l'intensification de l'aide à l'Ukraine. Les discussions ont porté notamment sur les moyens de financement. Bonjour Vincent Joris.
Bonjour.
Où les dirigeants vont-ils trouver finalement les ressources pour acheter des armes pour Kiev ?
Il s'agit d'un paquet de 5 milliards d'euros qui va être octroyé à l'Ukraine pour des achats d'armes et une grande partie du financement proviendra des revenus, des avoirs russes gelés qui se trouvent dans les banques européennes et principalement 191 milliards d'euros qui se trouvent dans Euroclear, une société de dépôt belge. Bien sûr, on ne va pas utiliser les avoirs russes gelés tels quels, on ne peut pas les saisir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les revenus générés par les avoirs russes au sein d'Euroclear, une partie de ses revenus, environ 3 milliards d'euros, qui seront affectés à l'achat d'armes pour l'Ukraine, principalement, parce qu'il faut encore décider dans les jours à venir dans quelle proportion cet argent va être utilisé pour des achats d'armes. Parce que certains pays neutres, comme l'Autriche et Malte, préfèrent utiliser cet argent pour la reconstruction de l'Ukraine.
Et puis hier, les 27 ont également jeté les bases d'une stratégie industrielle de défense pour la première fois. Et là, comment compte-t-il s'y prendre ?
On n'achète pratiquement pas à notre industrie de la défense, ce qui nous rend terriblement dépendants par rapport aux grandes puissances sur la planète. Et donc ici, la décision a été prise d'effectuer la moitié des achats d'ici 2030 au sein de l'industrie européenne. Pour ça, il faudra débloquer des fonds, des financements. Il y a déjà 1,5 milliard d'euros qui est sur la table, mais ce n'est pas suffisant. Alors les 27 ont décidé de réorienter une partie de la mission de la Banque européenne d'investissement. Ils lui ont demandé d'investir davantage dans la défense et dans les biens à double usage civil et militaire. Ça ne suffira pas. On réfléchit encore à d'autres pistes. Et donc, on a demandé à la Commission européenne de rédiger un rapport qui est attendu pour le mois de juin sur les différentes pistes pour financer cette stratégie industrielle de défense européenne, qui est une première finalement dans l'histoire de l'Europe.
C'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs et les candidats à l'achat d'un logement. Les taux hypothécaires à 20 ans passent en moyenne sous la barre des 3%. Ce sont les chiffres du site de référence Guide Épargne et ça n'était plus arrivé depuis près de 2 ans. Mais attention, la situation n'est pas appelée à durer. Alors comment vont évoluer les taux hypothécaires dans les prochains mois ? Et quand négocier ou renégocier son crédit aussi, j'ai posé la question à Bernard Kepen, économiste en chef de la CBC.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la baisse des taux est une anticipation de la baisse des taux de la part des banques centrales. Mais on sait bien que cette baisse des taux des banques centrales qu'on attendait début de cette année-ci, finalement, elle interviendra peut-être au mois de juin pour la Banque Centrale Européenne. Et donc, ce qui veut dire qu'on risque quand même encore d'avoir pas mal de volatilité sur les taux d'intérêt, aussi bien sur les taux d'intérêt court terme que les taux d'intérêt long terme. Et que donc, dans ce contexte-là, il y a encore des risques d'avoir des petites variations, des volatilités relativement importantes des taux hypothécaires dans les prochains mois.
Mais concrètement, jusqu'où peut-on espérer tirer son taux vers le bas ?
Il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Le premier, c'est qu'on a quand même eu, sur l'année 2023, une correction relativement significative quand même sur les prix du marché immobilier. Alors je dis ça de façon globale et générale, mais on a quand même eu un tassement un petit peu qui s'est observé et donc un réajustement au niveau des prix qui deviennent peut-être un peu plus intéressants. Et le deuxième élément, c'est quand même que globalement, si on réfléchit sur du plus long terme, on risque probablement d'évoluer dans un contexte de taux d'intérêt qui vont rester beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu avant les crises et certainement avant la crise Covid. Alors aujourd'hui, comme le mouvement va se faire sur les taux d'intérêt court terme, c'est plutôt sur les taux courts qu'on va observer des mouvements de baisse des taux d'intérêt et probablement pas sur les taux longs. Donc on va probablement continuer à tourner autour des 3%.
Et le balai de la baisse des taux d'intérêt commence peut-être là où on ne l'attendait pas vraiment. La Banque nationale suisse a décidé hier de réduire son taux d'intérêt directeur de 1,75 à 1,5%. La plupart des économistes pariaient sur un statu quo. Alors pour quelles raisons l'institution a-t-elle réagi comme ça ? Eh bien parce que la lutte contre l'inflation a été efficace, justifie la BNS. En effet, le mois dernier, elle est tombée à son plus bas niveau depuis 2 ans et demi à 1,2% et elle est orientée à la baisse depuis 1 an. La BNS explique aussi sa décision par la hausse du franc suisse au cours de l'année écoulée. C'est un gros point d'attention. Hier sur les marchés, c'était toujours la fête. Wall Street a terminé sur un triple record. Les 3 principaux indices new-yorkais restent à des sommets historiques pour le 2e jour consécutif. Hier, c'était la politique monétaire de la Fed qui portait les marchés. Aujourd'hui, ce sont les IPO. Pour sa première cotation, le réseau social Reddit a gagné près de 50%. Ce matin, la bourse de Tokyo a ouvert en hausse dans la foulée de Wall Street avant de glisser un peu dans le rouge à la mi-journée. C'est un sujet d'inquiétude pour nos pouvoirs publics et la santé de nombreux Belges. L'augmentation du nombre de diabétiques s'accélère dans notre pays. Cela touche un Belge sur 14 et un senior sur 5. Et la maladie commence à peser sur le budget de la sécurité sociale. Les coûts liés au diabète représentent 5,8 milliards d'euros, soit 1/5 du budget total de l'organisme. Ce sont notamment les traitements liés aux complications qui pèsent dans la balance. Le remboursement des médicaments spécifiques n'occupe qu'une part très faible dans l'équation, 6%. Au total, ce sont pas moins de 810 000 Belges qui sont traités pour un diabète entre 2021 et 2022. Leur nombre a augmenté de plus de 5%. Télécharger un film quasi instantanément ou profiter d'un programme en streaming sans coupure, voilà notamment ce que permet la 5G. Sans compter qu'il s'agit d'un réseau plus stable que ses prédécesseurs. Le régulateur du marché des télécoms a publié une cartographie de ceux qui en bénéficient actuellement. Déjà 87% des ménages en profitent à l'extérieur et 68% à l'intérieur des habitations. D'un point de vue territorial, 65% du pays est couvert à l'air libre, mais il reste donc encore du travail pour couvrir l'intérieur des bâtiments et les zones moins densément peuplées. Dans la course au déploiement, les opérateurs se tiennent à peu près dans un mouchoir de poche, Proximus en tête, suivi d'Orange et Telenet. La réglementation prévoit une couverture quasi complète du territoire d'ici 2026. Et puis retrouvez notre carte interactive pour savoir si votre commune est couverte par la 5G sur notre site internet et sur notre application. Un nouveau constructeur de voitures chinoises débarque sur le marché belge cet été. Alors encore, vous allez me dire, et pourtant Chery affiche de belles ambitions. Le groupe vise la conquête de 1,5% du marché belge dès la première année et elle va s'appuyer pour cela sur les marques Omoda et Jaecoo avec un siège de l'organisation basé aux Pays-Bas. Ainsi, Chery espère vraiment convaincre les consommateurs au plus près du terrain. Mais quels sont ses points forts? Benjamin Evrart, vous êtes penché sur la question.
En fait, il parie vraiment sur toute la panoplie des services automobiles. Ça va du marketing à l'après-vente, aussi la présence en concession. Donc, on sent vraiment qu'il n'y a pas une volonté d'attaquer par le prix, des prix très bas, mais vraiment d'attaquer par toutes les astuces et les ficelles du métier pour en fait vendre des voitures. Ça va être deux marques généralistes en même temps. Donc, une, c'est Omoda, qui s'adresse à un public plutôt jeune, plutôt connecté, plutôt dans l'air du temps. Et alors, une autre marque, Jaecoo, qui est plutôt pour ce qu'ils appellent une élite urbaine, on imagine un public plus âgé, qui est un peu moins alors dans les réseaux sociaux, etc. Et donc, Omoda arrive assez paradoxalement, parce que quand on parle voiture chinoise, on pense souvent en voiture électrique, mais en fait, leur première voiture qu'ils vont lancer sur le marché, l'Omoda 5, sera essence et électrique, donc il y aura les deux versions. Et alors, la Jaecoo ne viendra même pas en électrique dans un premier temps, la première Jaecoo sera en plug-in hybride ou en essence, dès septembre.
Alors Benjamin, on est d'accord, 1,5% du marché belge dès la première année, c'est franchement ambitieux.
Ben donc quand on parle de 1,5% de part de marché, on pense à des marques comme Mazda, Seat, Land Rover, Fiat, c'est un peu plus bas, mais donc on parle d'immatriculation quand même. Si on prend les chiffres de 2023 de Mazda, qui a 1,46% de part de marché, ben on parle de près de 7000 immatriculations. Donc ça fait quand même beaucoup de voitures qui vont arriver en Belgique en un coup. Alors ça va être aussi plus facile de les vendre peut-être, parce qu'elles arrivent en bloc, avec juste certaines versions, pas trop d'options. Elles arrivent en un coup, et après il faut les écouler.
Enfin, c'est un devoir de plus que devront accomplir les jeunes Belges âgés de 16 et 17 ans. Le 9 juin prochain, ils seront obligés de voter aux élections européennes. C'est la Cour constitutionnelle qui en a décidé ainsi. Elle estime que la différence de traitement entre électeurs majeurs et mineurs est injustifiée. Les jeunes concernés sont aux alentours de 270 000, soit près de 3% des électeurs belges. Merci d'avoir suivi ce brief. Guillaume Cordeau était à la préparation. Moi, je vous retrouve lundi avec mon invité, Étienne de Calataille, chief économiste d'Orcadia Asset Management. Déjà, bon week-end à tous.